Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour, bienvenue à tous dans Estelle Midi sur RMC, Story, le canal 23 de la TNT. Estelle donc n'est pas là aujourd'hui, elle sera de retour avec nous dès lundi. Autour de moi aujourd'hui, Thibaut Texer, qui va nous donner toutes les infos pour tout comprendre. Salut Thibaut.
Salut Rémi, salut à tous.
Perico Legas, journaliste à Marianne. Salut Perico.
Bonjour Rémi.
Mobilisé?
Oui.
Plus que jamais?
Sur le front.
Bon, très bien. Pierre-Edouard Magnan, militant associatif. Salut Pierre-Edouard.
Salut Rémi. Bonjour.
Je vous poserai la question tout à l'heure. Tu étais dans la rue hier ou pas?
Oui, mais j'étais dans ma bonne ville de Dieppe.
Bon.
Où là aussi, il n'y a jamais eu autant de monde. Alors évidemment, toutes choses égales par ailleurs, mais même dans les communes de moins de 30 000 habitants, il y avait eu du monde comme on n'en a jamais vu depuis très longtemps.
On va en parler dans un instant. Et Mathilde Himmer, militante écologiste. Bonjour Mathilde.
Bonjour Rémi. Bonjour.
Tu étais mobilisée hier aussi ou pas?
J'étais mobilisée en donnant mes sous de la journée à la caisse de grève, mais je voulais pas laisser mon patron sur le. Dans l'embarras sur un dernier chantier qu'on avait à finir là, donc j'ai fini avec lui, mais j'y serai le 31.
Bon, dans un instant, on va en parler justement. Plus d'un million de personnes dans la rue contre la réforme des retraites hier. Le gouvernement peut-il encore tenir face à cette mobilisation massive? Vous nous appelez au 32-16 à 12h30. Vous l'avez entendu dans le journal de Djamila Zeghouti, la CGT cheminot ne veut pas attendre le 31 janvier pour maintenir la pression sur le gouvernement et envisage de multiplier les grèves. Est-ce que vous soutenez cette initiative? À 13h, 35% des salariés français préfèrent être au chômage plutôt que d'être malheureux au travail. Et vous, d'accord, pas d'accord? À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, ZFE, diesel, chassé de nos grandes villes, routes dégradées. Est-ce que l'État sacrifie les automobilistes que vous êtes? À 14h40, les immanquables de Thibaut Texer. Et puis on joue, encore une fois, aujourd'hui, Thibaut, c'est le dernier jour
d'ailleurs. Ouais, à gagner cette semaine, un séjour d'une semaine à la montagne, en club MMV, au cœur de la Plagne, dans une chambre familiale, avec vue imprenable sur le domaine skiable, forfait matériel de ski sont compris grâce au magasin Ski 7. Pour cela, vous vous inscrivez tout de suite en envoyant neige au 732-16, neige au 732-16.
RMC Estelle Midi.
C'est le chiffre, ou plutôt, ce sont les chiffres du jour. 1 100 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 2 millions d'après les syndicats, c'est le nombre de personnes qui ont défilé hier à travers toute la France au premier jour de la mobilisation contre la réforme des retraites. Thibault, pour les syndicats, ça ne fait plus de doute. Le gouvernement n'a plus le choix et doit reculer.
Mais c'est une mobilisation qui va au-delà des espérances de Laurent Berger, leader de la CFDT, même son de cloche dans les rangs de la CGT. Même le gouvernement reconnaît une forte mobilisation, à l'instar d'Olivier Dussopt. Le ministre du Travail juge normal qu'une réforme des retraites suscite des inquiétudes. Il faut désormais répondre et écouter le message des manifestants, dit-il. Pour Bruno Le Maire, il est important que les opinions s'expriment pour le bien de la démocratie. Continuons à débattre et convaincre, déclare le ministre de l'Économie. Il faut dire qu'il y avait du monde hier dans la rue, plus d'un million de personnes selon le gouvernement, 2 millions selon l'intersyndicale. Chiffre similaire à 95. À l'époque, le gouvernement Juppé avait fini par céder. C'est en revanche un peu moins qu'en 2010. Plus d'1 250 000 personnes avaient battu le pavé contre le projet de loi Woerth sur les retraites. Face à la rue, le gouvernement n'avait pas plié. Enfin, c'est beaucoup plus qu'en 2019. Mouvement finalement interrompu l'année suivante par la pandémie. Pas de quoi inquiéter Emmanuel Macron. En déplacement pour la journée en Espagne, le chef de l'État rappelle sa détermination de mener à bien cette réforme qu'il qualifie de juste et responsable.
Et contrairement à ce que font certains, on ne va pas se battre sur les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que la mobilisation a été massive. Hier, le gouvernement le reconnaît lui-même. Et on vous pose cette question, est-ce que le gouvernement peut encore tenir avec cette réforme des retraites? Vous nous appelez au 32-16. Mathilde, est-ce que le gouvernement peut tenir?
Quand on se bat, on gagne. C'est des mots qu'on a utilisés hier. On a bu un verre avec des amis charpentiers, menuisiers, maçons qui étaient eux à la manifestation, qui ne sont pas souvent à manifester, qui sont plutôt en général à bosser. Et moi, ces mots-là, ils résonnent de manière assez forte dans ma tête, parce que je pense que c'est le pire ennemi qu'on a, aujourd'hui, c'est la résignation. C'est la plus grande alliée, finalement, d'Emmanuel Macron. La plupart des gens sont contre cette réforme. On sait que 96% des personnes actives sont contre cette réforme. Donc, c'est massif. La question, c'est est-ce que les gens vont rester dans le silence et la passivité ou est-ce que la résignation va être finalement vaincue ? Moi, ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est quand on parle de... Certains disent que c'est une réforme courageuse, oui, il faut qu'il aille au bout. Mais de quel courage on parle ? On parle du courage d'aller contre les plus faibles, les infirmières, les caristes, les travailleurs du bâtiment, pour les marchés financiers et les multinationales ?
Je me permets de t'interrompre. Oui. On va pas parler du fond de la réforme. Je veux vraiment, on l'a déjà fait, on le refera certainement. Ce que je veux, la question que je vous pose également au 32-16, c'est de savoir, là, face à cette mobilisation, face à ce que brandissent certains syndicats, on va en parler surtout, on en parlera à partir de 12h30, mais là, face à cette mobilisation hier. On a entendu, on a eu beaucoup de témoignages au 32-16 de gens qui nous appelaient, parmi vous, qui nous disaient, moi, pour la première fois de ma vie, je vais aller manifester cette fois-ci. Donc hier, ça a été le cas. Oui. On a vu cette mobilisation. Est-ce que tu penses que le gouvernement peut tenir ?
Je pense pas. En tout cas, si il a un tant soit bon respect pour le peuple français. Or, on sait qu'il y a un mépris dans la Macronie. Donc je pense qu'il va falloir se battre. Je pense qu'il va y avoir besoin d'autres mobilisations. Et c'est pour ça que je dis que ce serait là le 31. C'est que je me fais pas d'illusions sur le fait qu'à court terme, ils vont pas d'un coup enlever le départ à la retraite à 65 ans. Non. Ils vont tenir, ils vont peut-être essayer de négocier d'autres choses. Donc si on veut que ça change vraiment la donne, il va falloir se mobiliser largement. Et moi, je trouve que... Moi, ce qui me choque aussi dans la journée d'hier, c'est à nouveau, t'as plus d'un million de personnes dans la rue. Et à côté de ça, à Davos, t'as un millionnaire qui te dit que cette réforme...
Forum économique mondial.
Exactement, qui te dit clairement, hein, cette réforme en substance, elle est pas bonne pour les Français, mais elle est, je cite, bonne pour les multinationales installées en France. Ça, oui, ça l'est. Donc on voit bien que là, il y a un enjeu à comment est-ce qu'on ne se fait pas marcher dessus par un gouvernement qui est là contre le peuple et pour les marchés financiers.
Péricourt, est-ce que tu t'attendais à la mobilisation d'hier, à son importance ?
On a dit ici, sur ce plateau, on a dit il ne se passera pas grand-chose, les Français sont fatigués, résiliés. Donc on s'est trompé, ouais. Totalement. On avait émis l'option qu'il pouvait y aussi avoir un mécontentement au-delà de l'enjeu de la retraite. Ras-le-bol de cette gouvernance, pas vraiment de ce gouvernement, de cette gouvernance qui dure depuis 40 ans, avec une rupture entre les élites, voilà, une loi importante, on est parti à 65 ans, voilà, ça, on vit avec la retraite comme avec le Covid, on sait plus où on en est, vous voyez, donc, et on sait bien qu'à un moment donné, ça va poser un problème, je suis sûr qu'il y a une solution. Non, je vais faire le piège. Tout d'un coup, cet adoucissement du ton gouvernemental à l'Élysée, on va voir, faut écouter. Ils ont rien à proposer d'autre. Ils n'ont rien à proposer. Et en face, il n'y a aucune concession à faire. Ils ne lâcheront rien. Je sens le coup fourré de la dissolution. Ils vont aller à la négociation. Ça n'aboutira pas. Martinez et Berger camperont sur leur position, fort de cette mobilisation. Et le président de la République dira, je dissous l'Assemblée nationale au peuple français, oui. À trancher. Avec le risque qu'il y ait une majorité
relative. Ça me
rappelle
quelque chose, hein.
Ah oui, mais il dira, écoutez... Vous avez voulu, eh ben vous vous démerdez avec Madame Le Pen, Monsieur Ciotti.
Je vais pas dire de bêtises, mais c'est les grands mouvements. Reprenez-moi si je me trompe, mais les grands mouvements contre la retraite de 1995. Dans la foulée en 96, c'est ça, hein, je me trompe
oui,
pas.
Oui, 97.
97, pardon,
oui.
Mais dans la foulée.
Ça a mis un an et demi, la dissolution.
Ouais, alors, ça a mis un an et demi, mais enfin, il y avait ce contexte
95, il y a une campagne électorale où Chirac gagne à gauche sur la fracture sociale que lui recommande Philippe Séguin. La gauche, une vote pour lui. 26 octobre, trahison du 26 octobre. Ah, je peux pas, je suis obligé de m'aligner sur les codes monétaires européens, j'abandonne le programme. Trahison.
Bien mal
colère. 2010, Sarkozy n'a pas cédé.
Ouais.
Il n'a pas cédé. Ils ont cédé sur le CPE-CME avec Villepin en 2006. 2006,
bah
il n'a pas cédé.
Alors, est-ce que Macron va tenir cette fois-là ?
Là, je vous dis qu'il va à la dissolution, parce que de toutes les manières, il a envie de dissoudre depuis un moment. C'est empoisonnant pour lui, cette majorité relative. Donc, ça va être l'occasion de se compter. Soit les Français ont peur, reconduisent la majorité un peu mieux, soit ils reconduisent une majorité encore plus relative. Et à ce moment-là, Macron peut dire, écoutez, Madame Le Pen, Monsieur Ciotti et Monsieur Mélenchon, vous vous démerdez. Les Français vont voir ce que vous voulez. Vous voulez, c'est ça le piège. Et je pense qu'on arrivera là parce que, je vous dis, la CGT ne cédera pas. Et au gouvernement, ils n'ont rien à céder. Ou alors ils abandonnent le projet. Mais là, ça veut dire que le quinquennat est terminé. Donc, j'y crois pas une seule seconde.
Pierre-Edouard Magnan.
Alors si on met l'adverbe encore, oui, le gouvernement peut encore tenir. De toute façon, ça va. Depuis quelques jours, moi j'ai dit ici au mois de décembre que j'espérais une grande mobilisation, que effectivement les dernières expériences me faisaient hélas douter.
Oui.
Je suis très heureux d'avoir eu tort de douter. Clairement, mais cette journée, du coup, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on la voit monter. On savait que ce serait une réussite. Moi, je ne ferai pas de bataille de chiffres. L'essentiel, c'est que le gouvernement reconnaisse qu'on a passé le million. Ouais. Après, est-ce qu'on était 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million
C'est pas un marais non plus. Un million deux, on va dire 1,5 million.
Ça ne peut pas
être. Dernières mobilisations sociales, la CGT tablait, les syndicats tablaient sur au moins 1 million. Le gouvernement reconnaît lui-même que c'est plus d'un million.
Donc c'est 1,5 million.
C'est souvent ça, mais
indéniable.
C'est énorme, y compris dans le contexte actuel. Il faut jamais oublier que faire grève, c'est pas toujours dans les moyens de tout le monde, y compris de ceux qui veulent. Il y a à la fois des conditions de travail, à la fois des conditions de travail qui font que c'est compliqué, et il y a évidemment la question des salaires. Et la belle époque où on négociait le paiement des jours de grève à la sortie du conflit sont terminées. Je veux dire, ça n'existe plus nulle part. Mmh. Et les caisses de grève, elles sont ce qu'elles sont, mais elles permettent pas de rembourser les salaires. Donc clairement, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que pour l'instant, on a mis le 16, tout le monde s'attendait un peu au 26 en disant ça va être le jeudi, finalement on repousse au 31. C'est aussi parce que les syndicats sont conscients de ça. Donc aujourd'hui, il peut tenir. Mine de rien, je pense quand même qu'il avait espéré que ce serait pas aussi mobilisateur, d'où le discours très lénifiant. Alors moi, pareil, j'en ai ras-le-bol. Non, les Français sont pas inquiets, les Français, ils sont contre. On n'est pas inquiets, moi, je suis pas inquiet du tout. Enfin, je suis inquiet pour plein de raisons, mais je suis pas inquiet face à cette réforme. Je suis contre. Le sujet, il est là, donc c'est-à-dire qu'on arrête de transformer les Français en enfants
c'est
inquiets.
C'est pas si clair que ça. Hein. Ils savent qu'il faut prendre une mesure sur les retraites, et cette loi-là n'est pas la bonne.
Sur le reportage, ils sont clairement contre, et ils ont bien compris, effectivement, que cette réforme, elle visait les chômeurs, les précaires, les ouvriers, les employés. Et pas les cadres sup et les gens qui ont les moyens. On est un certain nombre autour de cette table à pas être individuellement impacté. Après, peut se sentir collectivement et socialement parfaitement impacté par cette réforme. Après, le gouvernement peut-il tenir ? Il y a aussi effectivement, alors sans qu'il y ait des solutions, la question de la majorité. Aujourd'hui, au Parlement, il y a une majorité puisque les Républicains vont être obligés de la voter puisque c'est ce qu'ils veulent.
Mais face à la mobilisation, tu penses que les Républicains peuvent tomber ?
N'oublions pas qu'un député, on peut le regretter ou non, mais un député, c'est aussi un élu local. Je pense qu'il y a des gens d'ailleurs qui le regrettent, mais c'est un fait institutionnel. Dans quelle mesure aussi cette majorité va tenir dans la durée ? Parce que ils vont retourner sur place, ils s'en prennent plein la tête de tout le monde. Aujourd'hui, il faut reconnaître, être député macroniste ou député républicain, c'est pas facile. Ça, je veux bien leur reconnaître ça. Est-ce que cette majorité qui est relative au niveau de macronisme, qui existe avec les Républicains, mais qui n'est quand même pas pléthorique, est-ce qu'elle va elle aussi tenir ? Parce que le gouvernement, c'est facile dans un ministère de dire on cèdera pas, on cèdera pas, on cèdera pas.
Solidarité.
Sauter sur sa chaise comme un cabri en disant on cèdera pas. En revanche, les parlementaires, ils vont sur le terrain, ils rebondent.
Sachant qu'il y a déjà une dizaine de députés LR qui ont indiqué qu'ils ne voteraient pas la
réforme. Exactement. Donc il y a aussi cette dimension là qui compte.
Rapidement, je vais aller au 32.
Le MoDem a fait des amendements qui n'ont pas été présentés. Qui repense la loi, on verra si Macron tient compte de l'amendement du MoDem qui repositionne le tout. On verra bien.
Allez, on va au 32-16, retrouver Francis. Bonjour Francis.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Francis, vous nous appelez depuis Nancy.
Oui, enfin depuis Paris, je suis en déplacement à Paris et j'ai pas pu participer.
Vous faites quoi dans la vie, Francis ?
Alors j'ai une petite entreprise très impactée par les problèmes d'inflation. Je cumule l'emploi retraite, c'est-à-dire je suis retraité depuis un an, et j'interviens dans des écoles d'ingénieurs.
Est-ce que vous êtes allé manifester hier ?
Alors je ne pouvais pas manifester pour des raisons familiales hier, mais j'étais de tout cœur avec eux et dans les prochaines manifestations, évidemment, j'y serai. Beaucoup de gens sont représentés par d'autres dans ces manifestations. Il faut arrêter de dire 1,2 million, 1,4 million, 1,5 million, 1,8 million. Tout ça ne veut strictement rien dire. Je vais vous donner un exemple. Dans la réforme des retraites voulue par Sarkozy, il y avait des tas de manifestations. À Nancy, on a connu des manifestations monstres où d'après la police, on était à 15 000. D'après les syndicats, on était à 50 000. Nous avons un jour compté avec des amis en nous bloquant devant la gare et en comptant de chaque côté de la rue à tour de rôle. On a comparé ensuite nos chiffres, nous étions 4 à compter, on était arrivé à 32 000. Donc en général, ça se situe entre les deux. Il y en a qui gonflent les chiffres,
Sinon, moi, c'est mon avis personnel, mais depuis quelques années maintenant, il y a un cabinet indépendant qui s'appelle Occurrence, qui donne ces chiffres et qui, hier, a situé la mobilisation à peu près justement entre les deux, entre 1 et 2 millions.
Et ils font ça gratuitement, évidemment.
Ce sont des médias qui sont mis ensemble pour solliciter ce cabinet indépendant.
Et donc ça coûte de l'argent, il y a quelqu'un qui paye, et donc celui qui paye en général.
Oui, les journaux qui demandent d'avoir la vérité pour ne pas dépendre du ministère de l'Intérieur. Voilà.
En tout cas,
c'est pas parce qu'on paye qu'on est un voyou, monsieur.
Ce qui est sûr, Francis, c'est qu'hier la mobilisation, elle était très importante. On est d'accord.
Voilà, ok. Donc la mobilisation était très importante. Il y avait des gens qui représentaient d'autres gens qui ne peuvent pas malheureusement aller manifester pour des raisons familiales ou professionnelles.
Et donc Francis, le gouvernement face à cette mobilisation, est-ce qu'il va tenir selon vous ?
Oui, il y a zéro problème. Le gouvernement, il tient s'il a envie de tenir. Après, c'est que de la politique. On décide d'une dissolution ou pas. Voilà, ça c'est du bidouillage. Sous Sarkozy, il y a eu 12 manifestations contre la réforme des retraites. Mon épouse fonctionnaire a participé à 9 d'entre elles. Elle a perdu 9 journées de salaire en tant qu'enseignante. Donc, quand il y a des manifestations importantes comme ça, l'État fait des économies. Si vous avez 500 000 fonctionnaires dans la rue, l'État ne paye pas 500 000.
Oui, enfin, ça déséquilibre l'économie aussi, hein, ça déstabilise l'économie. Hein, c'est pas bon pour le gouvernement.
Non, parce que si vous regardez ces années-là, la croissance, elle était ce qu'elle devait être. Enfin, moi, j'interviens sur...
On n'est pas en 2010. Et Francis, mais alors on fait quoi s'il y a des millions de gens dans la rue, des grèves, comme vous le dites, et que le gouvernement décide de ne pas céder, on fait quoi ?
Alors, le gouvernement, il a cédé quand dans les 20 dernières années, voire dans les 50 ou dans les 100 dernières années. Il a cédé quand il y a eu un rapport de force important entre la rue et le gouvernement.
Mais c'est quoi un rapport de force important ? C'est quoi un rapport de force important ?
De la violence. Un rapport de force, c'est de la violence et des actions qui peuvent être ciblées. Par exemple, quand les bonnets rouges faisaient passer gratuitement les gens sur les autoroutes, quand on coupe l'électricité chez un député, j'ai entendu ce matin sur votre antenne, pour le troisième jour d'affilée, Apolline de Malherbe a insisté là-dessus en disant c'est antidémocratique.
C'est illégal,
c'est une démocratie. Ça c'est autre chose. C'est illégal peut-être, mais c'est pas antidémocratique.
Mais vous la souhaitez, Francis, cette violence dont vous parlez, vous la souhaitez ?
Je ne sais pas si... Enfin, si on veut obtenir quelque chose, de toute façon, ça ne se fera pas sans violence. Les révoltes au travers de l'histoire...
Francis, prenons l'exemple des Gilets jaunes. Le mouvement a été complètement discrédité par cette violence.
Ben oui, sauf que acte 1, il ne se passe rien. Acte 2, il ne se passe rien. Acte 3, violence. On retire la taxe carburant. Acte 4, violence. On sort d'on ne sait où, 1,5 milliard. Acte 5, violence. 10, voilà. Bonnet rouge, acte 1, il ne se passe rien. Acte 2, on casse en Bretagne. On retire la taxe, l'écotaxe.
Mathilde.
Je ne fais qu'analyser.
Okay, oui, oui.
À chaque fois qu'il y a eu de la violence, il y a eu des gains du côté des manifestants. Quand il n'y a pas de violence, il ne se passe rien.
Francis, je veux faire réagir Mathilde.
Moi, je partage plutôt l'analyse, malheureusement. C'est-à-dire que normalement, si on avait une démocratie qui fonctionnait, le gouvernement, là, devrait faire un pas. Il y a l'unité syndicale. Ça n'était pas arrivé depuis 12 ans. Il y a plus d'un million de personnes dans la rue.
Enfin, les syndicats, tu sais très bien, Mathilde, je me fais l'avocat du gouvernement, mais c'est pour lancer le débat. Enfin, les syndicats ne représentent
rien
que ce qu'ils représentent.
Ok, si l'argument des syndicats ne te suffit pas.
Non, mais attends, je termine. 2 millions, 3 millions de personnes dans les rues aujourd'hui, sachant que certains n'ont pas pu manifester, mais mettons 5, 6, 7 millions de Français qui potentiellement auraient voulu aller manifester, ça ne représente pas tous les Français. Enfin, le gouvernement peut
d'accord.
estimer
et
ça.
Il reste les sondages quand même. Il y a un moment, je veux bien que tu fasses. Il y a quand même des sondages qui disent 96%. Des actifs 96%, c'est pas du 60-40 là.
Je vais aller très loin. Mathilde, il faut qu'on fasse ce qui est comparable. Je vais aller très loin. Dans ce cas-là, en 81, on n'abolissait pas la peine de mort.
Peut-être, mais déjà les chiffres n'étaient pas
les mêmes. Les sondages étaient contre.
Déjà, les chiffres n'étaient pas les mêmes. Il y avait beaucoup plus d'hésitation. Et c'est quelque chose qui est la plus de l'ordre moral. Je trouve que c'est complètement différent. Que quelque chose là où c'est sur le point économique, on l'applique à tout le monde, c'est 2 ans de plus de travail et on sait dans quel sens ça va. Donc à un moment, quand il y a les sondages, quand il y a la mobilisation qui est au rendez-vous, quand il y a l'unité syndicale, je trouve ça pas normal que le gouvernement dans une démocratie arrive à ne fasse rien. Et ce que ça crée, c'est de la rancœur. Et cette rancœur-là, elle est importante. Parce qu'elle est lancinante. Elle nous amène vers une dérive, parce que les gens sont en train d'en créer une question tout à fait simple. Si c'est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie ?
Pierre Adouard.
Oui, parce que enfin, le propre de la violence, c'est que c'est le seul outil de déblocage d'une société bloquée. Personne ne souhaite une société bloquée.
Personne ne souhaite la violence non plus.
Non, mais on sait bien qu'à chaque fois, j'irai le canon de la dernière raison des rois, le pavé, la dernière raison des peuples. Et malheureusement, mais ces vieilles citations qui font un peu surannées, poussiéreuses, un peu vieillottes, elles demeurent vraies. Personne ne le souhaite. Effectivement que sans la violence, des choses n'auraient pas été obtenues dans un certain nombre de mouvements. Je veux dire, il suffit de refaire l'histoire de France. Au demeurant, on sait aussi que les gens sont extrêmement réticents à la violence parce que la violence, en théorie, c'est une chose. La violence dont on peut se retrouver directement ou non victime, c'en est une autre. Et sur la comparaison avec la peine de mort, il y a une petite limite parce que à l'époque, que ce soit François Mitterrand en 81, mais on pourrait dire Giscard en 74, le président élu était élu pour eux, sur la base aussi de leur programme. Parce que là, Macron nous dit, oui, je l'avais dit au présidentiel, on sait bien qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu pour son programme. Il a été élu dans binarité que nous sommes.
Bon, plus de programme.
Mais
alors.
N'importe qui, sans doute, aurait été élu.
Non, plus de programme dans ce cas-là.
Non, allez, il a refusé le débat pour le premier tour de la
présidentielle. Le problème, c'est que là aussi, on est dans un blocage de
la société.
Dès le premier quinquennat, il l'avait clairement affiché. D'ailleurs, il a.
Non, c'était pas du tout la même réforme, Rémi.
On est d'accord.
La même réforme,
c'était hypocrite, inutile et injuste.
Ensuite, il a dit 65. Maintenant, on est entre 63 et 64. Ça va se finir. S'il y a négo, ça sera 63, vous verrez, puis tout le monde rentrera à la maison. Vous n'avez pas connu 68, les enfants, je l'ai bien connu, j'avais 10 ans.
Raconte-nous, papa.
J'allais revenir.
Le pays était sans dessus-dessous, à juste titre, on en avait ras-le-bol.
Société bloquée.
Même si le général de Gaulle était une figure historique, la société était sclérosée. Mouvement de masse, ouvriers, étudiants, vous avez vu les images.
Enfin, les syndicats sont arrivés bien après.
Quittaient quand même. Georges Séguier à la CGT, Edmond Maire à la CFDT. Non, il y avait une cohésion forte. À un moment donné, il y a effectivement un état de chaos et de désordre où le pays commence à arrêter de fonctionner. Le général de Gaulle parle à la télévision, il dissout l'Assemblée nationale, et les Français qui avaient eu peur, qui étaient la majorité, envoient une majorité écrasante. Ouais. Au général de Gaulle.
Et défilé sur les Champs-Élysées de plus d'un million de personnes
en soutien. Et les partisans,
les partisans de l'ordre, c'est pas tout à fait rien non plus quand même dans la bataille.
Et 68 a été très important. On a eu des avancées, des conquêtes.
Et pas que sur le plan social.
Voilà. Et le régime a appelé son soutien à ce, et il y a eu un million de personnes sur les Champs-Élysées. Voilà. Si demain la Macronie convoque, il y aura aussi du monde.
Et de
voilà,
Gaulle dehors, 11 mois plus tard.
Je veux donner la parole à François qui nous rejoint au 32
16. Je remercie
Francis qui est avec nous, qui nous appelait depuis Nancy. Et François nous rejoint. Bonjour François.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans SL Midi sur RMC, RMC Story. On est en Loire-Atlantique.
Oui, tout à fait.
Dans quel secteur, dans quel coin?
Là, je travaille à Saint-Herblain, juste à côté de Nantes.
Saint-Herblain, d'accord. Francis. Hier, vous avez manifesté ou pas?
Non, pas du tout. Et je ne manifesterai pas. Le gouvernement peut et doit tenir sur la réforme parce que c'est une obligation. Tout simplement, il y a juste des ajustements à faire, de
Pourquoi
la négociation avec les gens pour rectifier les carrières longues, les carrières incomplètes pour les femmes, la pénibilité, un minimum net, par exemple à 1 200 € et non pas un montant brut, parce qu'on finalement sait pas trop. Mais de toute manière, c'est une mentalité bien française que de râler et d'attendre d'avoir les pieds dans la merde avant de réagir. Là, il faut anticiper, parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et ça a des répercussions qui sont énormes. Il ne faut pas oublier que demain, on est à 1,4 cotisants pour retraité.
Mais alors, malgré tout, François, encore une fois, on ne parle pas du fond de la réforme. Mais hier, vous avez vu ces images, vous avez entendu les reportages sur RMC.
Oui, il y avait
une très très forte mobilisation quand même dans la rue.
1 million sur 68. Ou 1,5 million. Soyons fous, sur 68. Et vous faites quoi des 66,5? Alors, on nous dit les sondages, vous m'excuserez, mais quand on regarde les derniers sondages qui sont sortis sur les présidentielles ou autres, à chaque fois, ils se plantent. Alors, à ce moment-là, effectivement, il faut peut-être faire un référendum et demander aux Français de se positionner. Le problème, il est relativement simple, c'est que quand vous proposez à quelqu'un, tu veux partir à 50 ans ou à 60 ans de la retraite? Ils vont tous dire 50 ans. Ils préfèrent entendre le mieux 10 ans pour eux plutôt que de regarder la réalité. Moi, je joue pas pour ma part. Je pense à mes enfants qui sont derrière moi, qui vont devoir payer ma cotisation, enfin ma retraite, en principe. On fait comment? C'est pas un cadeau qu'on leur fait. On leur met un boulet au pied, on va les jeter en la Seine. C'est tout ce qu'on va faire.
Merci François de nous avoir appelé au 32-16. François qui nous appelait depuis la Loire-Atlantique. On vous a posé, d'abord, je voudrais que tu lises rapidement, Thibaut, 2-3 messages.
Ouais, il y a Paul qui nous dit qu'il est opposé à cette réforme, mais les syndicats ne doivent pas prendre les Français en otage, privilégiant des actions coup de poing, comme des opérations péage gratuit, par exemple, les Français gagneront. Et Florian lui propose une
TGV aussi, si on pouvait,
un
gratuit.
Tour de France du gouvernement à la rencontre des Français pour discuter de cette réforme. Et puis Mathieu lui en a marre de ce pays où tout le monde se plaint, tout le monde veut gagner plus en travaillant moins.
Message sur Direct Studio, l'application d'RMC. Et puis on vous a posé la question, le gouvernement peut-il tenir
C'est mitigé. 48% pensent que oui, 52% pensent que non.
Je pense que ça va encore durer, cette histoire.
On dirait l'élection PS.
Exactement.
Non.
On en parlera tout de suite.
Encore plus
dans un instant, la prochaine date, elle est d'ores et déjà fixée.
31 janvier.
La prochaine date, elle est d'ores et déjà fixée par les syndicats. Ça sera le 31 janvier.
Ouf.
Nouvelle journée de mobilisation, de grève et de manifestation. Mais avant même cette date du 31 janvier, la CGT Cheminot veut maintenir la pression, veut multiplier les actions et les grèves, notamment à la SNCF. Est-ce que vous soutenez cette position? Vous nous appelez au 3216 et dans un instant, dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi, 15h sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Je souris, je pouffe même à la limite parce que le débat se poursuit pendant les pauses ici. La mobilisation est à son comble et c'est la menace du jour face à la réforme des retraites. La CGT Cheminot envisage de multiplier les actions et les grèves à la SNCF avant même la prochaine date du 31 janvier, prochaine date de mobilisation dans la rue. Thibault, le syndicat veut maintenir une pression maximale sur le gouvernement.
Avec un objectif, en faire plus. Ce matin sur RMC, le secrétaire général de la fédération CGT Cheminot, Laurent Blin, réclame la poursuite de la mobilisation et ce, avant ou après le 31 janvier, date de la prochaine mobilisation nationale, appelant les salariés à multiplier les actions dans leurs entreprises. Cela pourrait prendre la forme de grève ou de débrayage, explique le syndicaliste qui se dit déterminé de prévenir. Nous ne sommes qu'au début de ce processus. La CGT entend établir un rapport de force contre le gouvernement, appelant l'ensemble des secteurs de l'économie à se mobiliser. Des discussions doivent avoir lieu cet après-midi pour déterminer les modalités de cette mobilisation. Un avis rejoint par Yann Ricordo à la CFDT pour qu'il faut multiplier justement ces formes de mobilisation, autrement dit des grèves perlées à l'exemple de 2019 à la RATP. Elles ne sont pas à exclure. Des mouvements dans les raffineries sont aussi envisagés. Le secteur pétrolier sera dans les prochaines mobilisations avec un risque, celui de la pénurie de carburant si le gouvernement persiste, expliqué ce matin l'UN Arbiol. Il est délégué CGT à la raffinerie Esso à Fos-sur-Mer. Et puis hier, un agent sur quatre de la fonction publique était en grève. La branche CGT du secteur appelle à discuter d'une grève reconductible aux alentours du 23 janvier, jour de la présentation de la loi en Conseil des ministres, et réclame des actions locales sur l'ensemble du territoire.
Allez, des grèves quasi continues pour mettre la pression sur le gouvernement face à la réforme des retraites. Est-ce que vous soutenez cette idée, Perico?
Ils prennent un risque énorme. Et j'en ai marre de cette partie crétine d'un mouvement. La CGT, là, ils sont très fiers du mouvement. Ils voudraient se récupérer. Si ils créent un désordre et un chaos, ils peuvent user et fatiguer l'opinion publique. Le drame des Gilets jaunes, c'est s'ils avaient su sortir au moment voulu, ils sortaient gagnants. Puis ils seraient revenus. Là, il y a une étape qui est le 31 janvier. Le coup de génie intelligent politique, ça serait de dire, tout rentre dans l'ordre. On va voir si on négocie. Et le 31 janvier, s'il n'y a rien, on revient. Là, s'il y a du désordre, s'il y a de la déstabilisation du pays, s'il y a on recommence à avoir des pénuries d'essence, des transports qui ne marchent pas, la frange de la population qui soutient ce mouvement va se désolidariser. Or là, on voit le vieux réflexe stalinien, on va durcir, on va monter à la castagne, on a presque 2 millions avec nous, il faut en profiter, j'allais dire, il faut faire fructifier, c'est une erreur politique tragique. Et Martinez et l'intersyndicale devraient dire à ces cheminots, non, pour l'instant, on a gagné, on a marqué une manche, c'est un point énorme, on va faire une pause, on va voir si le gouvernement vient et fait des propositions, si on fait rien, on monte au créneau et là, on castagnera. Mais pas maintenir comme ça, c'est discréditer le mouvement et le risque de décourager les gens qui étaient prêts à se mobiliser et qui la diront non. Si c'est juste pour du règlement de compte entre la CGT et le pouvoir, nous on suit pas. Voilà le risque.
Pierre-Édouard Magnan, militant associatif. Pierre-Édouard, est-ce que tu partages l'idée de Perico? Est-ce qu'il y a un danger pour les syndicats, pour certains syndicats, d'une paralysie du pays qui lasserait une frange de la population?
Alors, dans ce genre de situation, je crains toujours que Perico ait raison, hélas. Non, sur le principe, évidemment, il est normal de vouloir faire monter un mouvement en pression. Ouais. Et il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de gêne. Vraiment, il faut arrêter le côté la grève, oui, pas le blocage. Oui, on peut. Ça me rappelle les grèves d'étudiants. C'est vrai, on fait pas court, on est assis dans les amphis, puis on attend que ça se passe. C'est vrai que ça dérange personne. Évidemment qu'une grève qui ne gêne pas ne crée pas de rapport de force. Donc, une grève doit gêner, une grève doit ennuyer, une grève doit perturber.
Il n'y a pas déjà un rapport de force, vu le nombre de manifestants hier.
Il y a une bataille de gagner.
Il y a un rapport de force hier. Je ne sais pas ce que les syndicats de cheminots vont décider. Il est évident aussi que tous les corps professionnels n'ont pas la même capacité à créer de la pression.
évidemment, les raffineurs ou les cheminots, ils ont une capacité à créer de la pression, ils ont entre les mains un levier pour du rapport de force qui n'est pas tout à fait le même qu'un certain nombre d'autres corps professionnels. Je vais être, c'est terrible, mais l'éducation nationale, oui, c'est chiant parce qu'il y a les enfants, on sait pas où les mettre, etc. Mais mine de rien, quand même, d'abord, les enfants, les premiers concernés, sont pas toujours mécontents. Et puis, finalement, on se débrouille en machin. Pour le coup, il n'y a pas de train, il n'y a pas de RATP sur Paris ou même tout. D'ailleurs, on pourrait prendre tous les réseaux de transport urbain. Évidemment, les raffineries. En plus, on sort d'un truc en novembre, donc tout le monde est un peu comme ça. Dimanche dernier, moi, j'avais presque plus d'essence. Je suis allé faire le plein parce que j'allais lundi à Caen, pour ne rien vous cacher de ma passionnante vie. Je suis donc allé spontanément faire le plein dimanche. J'ai fait la queue. Vous voyez, en plus, on crée des réflexes.
Parce que après, ça use au bout d'un moment. Moi, je me souviens d'exemple
de la grève de 2019.
C'était la grève la plus longue à la SNCF en durée, parce que c'était des grèves perlées, souvenez-vous, oui. Et la RATP également. Moi, je l'ai vécu comme des millions de Français et des centaines de milliers de personnes en Île-de-France. Une semaine, deux semaines, trois semaines. Au bout d'un moment, tu t'uses physiquement. Quand tu dois aller au travail tous les jours, c'est fatigant. Et au bout d'un moment, la réforme ou pas,
t'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête.
Tu t'en fous, t'es épuisé, t'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Il y a ce danger-là.
Mais c'est le danger de l'opinion publique qu'on voit aujourd'hui. On le voit d'ailleurs depuis les Gilets jaunes. Même si les Gilets jaunes, on peut discuter de la fin, ce mouvement a tenu très longtemps pour une seule raison, c'est que l'opinion publique le soutenait. Ils n'ont jamais été très très nombreux. L'acte 1, je crois qu'ils étaient 200 000 ou 250 000. Loin de ce qu'on a fait hier. Au demeurant, ils ont eu un soutien de l'opinion publique pendant très longtemps, ce qui les a fait tenir très longtemps. Oui. J'en reviens pas sur ce tout à l'heure.
Ils ont brûlé des Mercedes sur les Champs-Élysées, ça fait peur à la bourgeoisie en général.
Mathilde est minoritaire.
Mathilde Dimère.
Moi, je pense qu'il y a deux risques. Perico a raison. Il y a un risque d'user et de changer l'image du mouvement qui, pour le moment, est plutôt populaire et répond à cette colère un peu sourde et profonde qui est là dans le pays, pas que sur les retraites.
D'ailleurs.
Mais il y a un autre risque que les gens partagent, c'est qu'il se passe rien. Parce qu'on voit bien que ce gouvernement, on l'a vu avec les Gilets jaunes et on l'a vu avec d'autres mobilisations, écoute quand même assez peu. Je veux dire, ils ont passé cette retraite en n'en ayant rien à faire de ce que disait l'ensemble des syndicats qui étaient contre. On a un président schizophrène qui a quelques années, non mais en 2019, en tout cas amnésique à minima, mais en 2019, il disait quand même lui-même, vous savez déjà plus comment tenir jusqu'à 55 ans, c'est ça la réalité. Décaler l'âge de la retraite, ça serait hypocrite. Quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté ou qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. Ça, c'est Emmanuel Macron.
Si on fait l'inventaire des contradictions des hommes politiques, ce qu'a dit Mélenchon,
on va être pris par le temps et je veux vraiment vous donner la parole au 32-16.
Ce que je veux dire, c'est que le risque qu'il ne se passe rien par rapport
au risque, une réforme des chemins de fer,
à mon avis, est supérieur.
Que la CGT a perdu. Elle a un compte à régler avec Macron. Elle a perdu totalement. La réforme est passée en totalité. Il a tenu bon, comme quoi il peut tenir. Et il a eu gain de cause sur la totalité. La réforme a été faite. Et ça s'est très bien passé. Finalement, la SNCF continue à vivre. Tant bien que mal. Donc là, ne tombons pas dans le règlement de compte. CGT pouvoir. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber.
La CGT veut multiplier les débrayages, les grèves avant le 31 janvier, maintenir la pression sur le gouvernement. Est-ce que vous soutenez cette initiative? Vous nous appelez au 32-16 comme le fait Anthony. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Anthony, vous nous appelez depuis la région parisienne. On est en Seine-et-Marne.
Tout à fait.
Et vous êtes cheminot à la SNCF.
C'est ça.
Bon, vous êtes prêt à vous mettre en grève perlée, comme on dit, pendant plusieurs jours?
Tout à fait, c'est prévu. On en a déjà parlé entre collègues et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour nous, je pense, et pour soutenir tout le monde, quoi. Et donc voilà.
On en a déjà parlé. Vous êtes syndiqué, Anthony?
Non.
D'accord.
Du tout. C'est un choix. Mais je soutiens quand même les syndicats, mais je ne suis pas syndiqué.
Ce que disait Perico, l'évoquait tout à l'heure, et on l'évoquait avec Pierre-Edouard Magnan et Mathilde Dimère également, est-ce que vous ne craignez pas, vous avez vécu 2019, forcément?
Tout à fait.
Les grèves de 2019, vous êtes parti du mouvement?
Oui, j'ai fait 3 mois de grève d'affilée.
Perlée, non?
Oui, je les ai fait, moi je me suis mis en grève pendant 3 mois.
3 mois d'affilée, tous les jours?
Oui, tous les jours.
Mais vous avez fait comment pour vivre?
Je me suis débrouillé comme j'ai pu, j'avais un peu de sous de côté, mais voilà.
Ah oui, donc déterminé.
Il
y a quand même ce danger, dans cette configuration pour les syndicats, d'une lassitude de la part de l'opinion.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Après, en soi, c'est normal, vu ce qui est dit dans les médias et tout, je pense que ça y fait beaucoup aussi. On n'est pas non plus très soutenu,
Donc, enfin, il n'y a pas que les médias. Je veux dire, quand une, je vais prendre deux exemples très différents. Quand une femme de ménage doit prendre son RER le matin pour aller travailler sur Paris, ou quand un cadre doit rejoindre son entreprise en banlieue parisienne et qu'il est bloqué pendant trois semaines, c'est pas que les médias qui disent que ça va pas,
oui,
ou que, enfin, ils le vivent au quotidien.
Je suis d'accord, mais on met quand même l'accent là-dessus, et ce qui est normal. Moi, je comprends les personnes qui ne peuvent pas aller au travail. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en soi, si dans ce cas-là, on ne pourra jamais rien faire. On ne pourra jamais rien faire. Nous, on peut, on a le droit de grève, on en profite. Voilà, c'est comme ça. Et voilà.
Et c'est moi, pas parce qu'on subit la grève qu'on est forcément contre. Moi, hier, mon train, hier soir, pour monter à Paris, a été annulé. Pour autant, je soutiens cette grève.
Prévu. Là, ça serait quelque chose de perlé qui reviendrait sans cesse. À un moment donné, les gens ont besoin de voter.
Oui, mais il y a un moment donné, il faut avoir regardé ce qui se passe dans les raffineries. Mais si on veut que ça monte en pression et que ça gêne vraiment.
En 2019, ils ont tout perdu.
Il faut que ce soit
parlé. En 2019, ils ont tout perdu.
Merci, Anthony, d'avoir été avec nous. Anthony, qui nous appelait depuis la Seine-et-Marne au 32-16. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. La CGT Cheminots envisage des grèves perlées, des grèves reconductibles à la SNCF avant même le 31 janvier, prochaine journée de mobilisation. Est-ce que vous êtes prêt à soutenir ce mouvement?
Mais on est sur le même rapport que tout à l'heure. La question précédente, 48% de oui et 52% de...
Ça veut dire que quand c'est très partagé comme ça
pays coupé en deux.
La confrontation risque de durer un certain moment.
Hein. Parler de société bloquée tout à l'heure, il y a des vrais... C'est pas nouveau. Quel sera le blocage ultime qui, lui, ne se débloquera pas par le Covid, par la faiblesse d'un mouvement ou par un recul de l'opinion publique? Bien malin qui pourrait le dire.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas de progrès avec Frédéric Simotel et on va parler de robots tortues et éléphants.
Si. Vous allez voir. Un sujet majeur.
Exactement. Dans un instant, dans Estelle Midi, si on n'arrête pas le progrès sur RMC. RMC Story, à tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC et RMC Story. Et Frédéric Simotel est avec nous.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Bonjour Frédéric.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui biomimétisme. Alors c'est pas le fait d'imiter ceux qui mangent bio, hein, c'est
non,
pas ça du tout. Mais on va parler de robots. On va parler de robots.
J'ai pas vu venir ça.
Oui. On va parler de robots et les chercheurs ne vont pas trop loin en général lorsqu'ils développent de nouveaux robots. Bah, ils s'inspirent de ce qui les entoure, c'est-à-dire nous, les humains et puis les animaux.
Oui. Et les humains. Alors vous l'avez peut-être déjà vu, ce robot Atlas. Alors il est conçu par l'agence de recherche du département américain. C'est un robot. Alors on le voit courir, faire des salto, sauter des obstacles, et puis maintenant il faut qu'il bosse. Hein. Donc ils ont sorti une nouvelle version. Il est sur un chantier, donc il y a des échafaudages. Et alors le robot, il est capable tout seul de grimper dans l'échafaudage, de marcher en équilibre sur les planches, d'apporter des outils, porter des sacs de ciment, d'apporter des outils aux ouvriers. Parce que le but, c'est pas ça, c'est pas de remplacer les ouvriers, c'est vraiment de les aider, de les accompagner. Et là, pourquoi? Alors ce qui est nouveau avec ces, alors au-delà qu'il est plus puissant, plus fluide, il peut saisir, ses mains maintenant, ce sont des pinces avec un doigt mobile, donc il peut saisir beaucoup mieux les objets. Et ils réfléchissent à terme à lui remplacer même ses mains par, pourquoi pas, un fer à souder, par des visseuses. Enfin voilà, c'est tout ce
changement. Pour ceux qui ne voient pas les images qui sont diffusées sur RMC Story, il a l'air super agile.
C'est impressionnant.
J'ai cru que c'était Estelle à un moment donné.
on a l'impression.
Très agile, c'est fou.
On a l'impression qu'il y a un humain qui s'est glissé à l'intérieur, alors que non, c'est bien un robot.
Ça fait peur.
Impressionnant. Le robot, en tout cas, il a surtout gagné en vitesse et en fluidité dans ses déplacements. Et il y a aussi cet étonnant robot tortue.
Oui.
Là, on est vraiment dans le biomimétisme.
Oui. Alors celui-ci s'appelle ART, alors pour Amphibus Robotic Turtle. C'est conçu par, encore une fois, des chercheurs américains. Et donc, ils ont fait comme la tortue, c'est-à-dire qu'il y a ses pattes quand elle marche sur la terre. Et puis, quand il va dans l'eau, eh bien, les pattes se transforment en nageoires ou en palmes. Et si vous regardez en image, encore une fois, cette tortue, on a vraiment l'impression qu'elle a exactement les mêmes mouvements que la tortue. Le principe, c'est quoi? C'est pas juste de s'amuser à imiter les tortues. C'est de lâcher ce type de robot dans les océans, dans les écosystèmes côtier, pour étudier un peu, parce que ces appareils sont dotés de capteurs, et de pouvoir étudier comment la température de l'eau,
les courants marins, etc. Des évolutions de température.
Oui, voire même au soutien de plongeurs, ils ont parfois besoin d'aide, d'outils, tout ça. Donc on a ce type d'outils, et c'est assez étonnant parce qu'ils arrivent vraiment à reproduire. Lorsqu'on la voit dans l'eau, lorsqu'on voit ce robot drone dans l'eau, on a vraiment l'impression de voir une tortue, c'est exactement les mêmes mouvements.
Avec le risque que les militaires nous le récupèrent aussi un jour, évidemment.
Ça, il y a déjà.
C'est toujours.
C'est peut-être même eux qui l'ont inventé.
Généralement,
tu vas pas me contredire, Frédéric, les précurseurs de ce type de technologie, ce sont les militaires.
Ouais, en général, comme tout, c'est la NASA qui a monté la NASA derrière.
Et puis revenons, on revient sur Terre avec un bras robot. qui s'inspire, alors,
sur Bouchon aussi,
de la trompe de l'éléphant.
Exactement, parce que c'est vrai, on regarde pas assez, mais les éléphants, qu'est-ce qu'ils font avec leur trompe? Alors, ils peuvent aspirer des choses avec beaucoup d'air à l'intérieur, et puis ils peuvent aussi saisir des choses pour manger, pour les atteindre jusqu'à leur bouche. Eh bien, des chercheurs ont numérisé cette trompe, ont regardé ce qui se passait à l'intérieur, et ont décidé, de pouvoir faire fonctionner un bras articulé de la même façon, soit en mode aspirateur, c'est-à-dire il va aspirer très fort et pouvoir attraper un petit colis, parce que le but c'est ça, le but c'est d'aller dans les centres de logistique, parce que vous savez, en logistique on peut avoir des grands colis, des petits colis, des choses fragiles, des choses moins fragiles, des choses légères. Et bien le but de ce bras robotique inspiré de la trompe d'éléphant, c'est ça, c'est pouvoir dans un centre logistique, un produit un peu plus fragile, on va le saisir avec la fonction aspiration de la trompe, un colis plus petit, ce sera la fonction pince. Donc voilà, on s'inspire de ces animaux pour pouvoir améliorer notre quotidien.
Et vous nous le promettez, Frédéric, c'est pas pour remplacer l'homme, c'est pour l'aider.
C'est pour l'aider, oui, toujours. Non, ça, je le dis.
Quand on regarde le visage de Mathilde et de Pierre-Édouard, ils sont pas du tout convaincus.
Non, si, moi j'étais en train de me dire, de faire le lien avec la question de juste avant sur les retraites, où je trouve qu'il y a des gains de productivité dans le monde du travail qui peuvent être.
Je suis en train de penser à quelque chose.
Et d'améliorer le travail aussi.
Mais je suis en train de penser à quelque chose.
Dans les années 82,
il y aura moins de pénibilité, donc on va pouvoir travailler jusqu'à 64 ans.
Attends, quand on demandait aux Français, en 82. À quoi ressemblerait la retraite demain? Il disait 55 ans. Justement parce qu'il y avait plein de gains de productivité, qu'il y avait une baisse du temps. Et ces gains de productivité, où est-ce qu'ils sont partis? Moi, je trouve ça intéressant qu'on se pose la question. Il y a trois semaines, qu'ils sont partis sur les dividendes. Et le reste, c'est soit du chômage, soit des besoins artificiels, genre le portable dernier cri, avoir une plus grosse bagnole, une piscine, etc. Et donc c'est important de se poser ces questions-là aussi.
Merci Frédéric d'avoir été avec nous, et vous pouvez réécouter la chronique de Frédéric Simotel. On n'arrête pas le progrès, bien sûr, sur les podcasts d'RMC. C'est peut-être le cas en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un là qui est en train de nous écouter, ou qui nous écoutera plutôt ce soir ou dans l'heure qui vient, grâce au podcast sur rmc.fr. Nous on se retrouve dans un instant dans Estelle Midi. 35% des salariés préfère être au chômage plutôt que malheureux au travail. Est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vous nous appelez au 3216. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. À tout de suite.